Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Marion Calais, Julien Cellier, bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Myriam. Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir, c'est parti pour deux heures d'infos avec donc Marion Calais à mes côtés. Bonsoir Marion.
Bonsoir Julien.
Et à la une, le malaise en Russie. Finalement, Poutine ne mobilise pas 300 000 hommes, mais peut-être 1 million, chiffre de la presse indépendante, ce n'est plus la même chose. Les autres titres de l'actu, Marion.
Énergie renouvelable, nucléaire, le cap énergétique de la France fixé par Emmanuel Macron et l'objectif est clair, produire plus d'électricité et plus vite. Dans ce journal aussi, le procès de l'attentat du 14 juillet avec une rencontre au cœur de l'horreur et de vie désormais intimement liée, compte rendu d'audience à suivre. Et puis le bras de fer Canal+, TF1 qui se poursuit, écran noir toujours, hein, pour près de 2 millions d'abonnés.
Dans un quart d'heure, la brigade RTL va s'inquiéter pour nos bleus France-Danemark à vivre sur RTL ce soir. 18h15, on va remarcher sur la Lune en quelque sorte avec un invité exceptionnel, le patron de la NASA, Bill Nelson. Mission Artemis, Mars, Thomas Pesquet. Nous avons moult questions à lui poser. À suivre aussi, laissez-vous tenter dernière avec Stéphane Boutsock qui a regardé aujourd'hui 250 bandes annonces des films des prochains mois. On attend le top 10, 18h40. On va défaire le monde avec Cyprien Signy et compagnie. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Menu s'il vous plaît.
Le mondial au Qatar, c'est dans deux mois. Et ce soir, vous allez découvrir les coulisses et la véritable histoire de l'attribution de ces mondiaux à l'Émirat du Golfe. Au menu également, les oiseaux qui en veulent aux cyclistes en Australie, des bombes dédicacées en Ukraine et le français champion du monde de paella.
À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Herbemont et puis le temps très régulièrement avec Claire Delorme. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Tendance pour demain?
Un temps qui va se gâter progressivement par l'ouest avec le retour des orages mais seulement en début de soirée. Ça commencera par le sud et on y reviendra plus précisément à la fin de ce journal.
Exactement, à tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
La mobilisation donc en Russie, mobilisation qui semble n'avoir de partiel que le nom.
Oui, mobilisation partielle des réservistes, c'est ce qu'avait annoncé hier le président Poutine. Son ministre de la Défense avait parlé de 300 000 hommes concernés. Ce pourrait être en réalité trois fois plus selon la presse indépendante. Ce soir, l'armée russe assure que 10 000 volontaires ont demandé à être mobilisés en Ukraine. Chiffre de l'armée russe. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur le terrain, la mobilisation a bel et bien débuté. Pour RTL, Vincent de Rosier vient de joindre Olga, qui habite Saint-Pétersbourg et qui raconte ces scènes vues dans les rues, dans le métro. Ces dernières heures, tendez l'oreille, la liaison est un peu difficile.
Moi, j'ai vu aujourd'hui dans le métro, il y a des flics qui arrêtent les hommes et qui leur demandent de montrer les papiers, qui leur posent des questions, est-ce que vous avez fait votre service militaire, voulez-vous nous montrer votre billet militaire, etc. Alors, il y a des hommes qui sont convoqués pour une discussion d'une quinzaine de minutes, voulez-vous nous montrer vos billets de retour, s'il vous plaît, que vous avez comme ça, est-ce que vous avez fait votre service militaire, et pourquoi est-ce que vous avez choisi de partir là maintenant. Aujourd'hui, dans les rues, où hier, après la manifestation, quand beaucoup de jeunes ont été arrêtés dans les gardes à vue, ils ont reçu des papiers sans leur nom.
Témoignage RTL donc d'une habitante de Saint-Pétersbourg. Bonsoir Émilie Beaujard.
Bonsoir.
Une chose est sûre, les ordres de mission ont déjà commencé à être distribués.
Eh oui, on voit sur les réseaux sociaux des hommes montés dans des bus pour les conduire au centre d'entraînement militaire. En quelques heures donc, les premiers ordres de mobilisation ont été distribués. Des contacts en Russie nous racontent une grande désorganisation. Dans certains villages, tous les hommes ont été appelés à se présenter. Dans d'autres villes, une source nous raconte que la police parcourt les rues, arrache les jeunes à la foule et leur donne des convocations sans nom, comme vient de nous le raconter Olga. Tout cela semble donc très improvisé. Il est demandé à certains de se présenter à un bureau militaire, à d'autres de passer un examen médical et pour certains de partir directement au service militaire.
Alors on le disait Émilie, la question de l'ampleur de la mobilisation est posée, d'autant qu'apparemment des hommes n'ayant pas combattu semblent finalement avoir été appelés.
Oui, hier le président russe expliquait que les 300 000 réservistes étaient des jeunes hommes ayant déjà servi ou ayant une expérience militaire. Il semble que cela ne soit pas respecté. Sur cette vidéo, un jeune homme de 32 ans explique être informaticien sans aucune expérience militaire. Il montre son ordre de mobilisation. Il a été convoqué en fait ce matin juste pour vérifier ses papiers d'identité. Et pendant ce rendez-vous, il lui a été signifié qu'il devait partir ce jour même à 15h pour le service militaire. C'est donc la panique qui commence à s'installer. D'ailleurs, sur un des bâtiments d'enrôlement militaire à Saint-Pétersbourg, une banderole « No panique, ne paniquez pas » a été déroulée sur la façade.
Et puis des femmes seraient aussi concernées par cet ordre de mobilisation.
Oui, tous les médecins déjà de toutes les spécialités sont astreintes au service militaire. Des convocations peuvent aussi être remises à des femmes réservistes jusqu'à 45 ans et à des femmes ayant des grades militaires jusqu'à 50 ans. On se rend compte donc aujourd'hui que beaucoup de Russes sont concernés par la mobilisation dite partielle. Selon le média d'opposition Novaya Gazeta, l'ordre de mobilisation ne concernerait pas 300 000, mais 1 million de personnes.
Donc trois fois plus qu'annoncé hier par les autorités russes. Confusion autour de cette mobilisation prononcée par Vladimir Poutine. Merci Émilie Beaujard.
Et déjà l'Allemagne se dit prête à accueillir un des déserteurs de l'armée russe, la Russie qui organise à partir de demain, on le rappelle, ses référendums d'annexion dans 4 territoires ukrainiens.
RTL Soir.
18h06 et plus question d'être sous pression. Emmanuel Macron entend accélérer la diversification des énergies en France.
Alors que la menace de coupure d'électricité n'est pas à l'approche de l'hiver totalement écartée, le chef de l'État a présenté aujourd'hui ses ambitions en matière de production d'électricité à l'occasion d'un déplacement au large de Saint-Nazaire pour inaugurer le premier parc éolien en mer.
Alors, déplacement que vous avez suivi pour RTL, William Galibert, bonsoir.
Bonsoir.
Et le cap est clair, aller à fond sur le renouvelable comme sur le nucléaire.
Oui, il a fait ce tour en mer, en bateau, pour admirer ces bestioles, ces 80 éoliennes géantes. Mais c'est vrai, il ne renonce à rien, même pas aux éoliennes sur terre, dans nos campagnes, où elles sont pourtant tellement décriées.
Je vais être très clair, si on veut atteindre notre sobriété et nos objectifs 2050, on devra faire de l'éolien sur terre. Il va falloir là aussi mieux concerter, mieux prévoir.
Emmanuel Macron veut aussi aller très vite sur le nucléaire. Il a déjà annoncé la construction de nouveaux réacteurs et il est prêt à accélérer les procédures.
C'est la même approche qu'on va adopter ensuite dans la foulée sur le nucléaire, où notre volonté est de pouvoir accélérer et simplifier ces projets en permettant plus de procédures uniques, en allant beaucoup plus vite.
C'est une course de vitesse qui s'est engagée, c'est ce que répète le chef de l'État.
De toute façon, c'est simple. Nous sommes dans un monde ouvert, il est compétitif. Si on va plus lentement que nos voisins, on aura beaucoup plus de problèmes.
En clair, aller chercher les mégawatts partout où on peut les trouver. Bref, tout pour éviter à l'avenir le scénario de pénurie qui se profile cet hiver.
William Galibert à Saint-Nazaire pour RTL.
Emmanuel Macron qui, sur BFM Télé ce matin, a réaffirmé la nécessité de réformer les retraites. Ce soir, le comité de suivi des retraites demande une réponse face à un risque de déficit significatif à l'avenir.
4 jours de polémique, mais Jean-Luc Mélenchon assume.
Il assume donc d'avoir sur Twitter salué le courage du député du Nord, Adrien Quatennens, qui venait de reconnaître avoir giflé sa femme au cours d'une dispute. Il assume donc aussi de ne pas avoir eu un mot pour elle. Et voici comment.
Monsieur, je pèse mes mots tout le temps.
Dit donc Jean-Luc Mélenchon, le patron de la France Insoumise, qui a ouvert ce matin les journées parlementaires du groupe à l'Assemblée, au programme notamment une formation pour ses députés sur les violences sexistes et sexuelles. On l'a appris cet après-midi, la décision de Gaël Perdriau de se mettre en congé de la présidence de la métropole de Saint-Étienne. Il conserve en revanche ses fonctions de maire de la ville. Gaël Perdriau, accusé d'avoir commandité une affaire de chantage à la sextape sur un de ses anciens adjoints.
Petite pause dans ce journal, dans RTL Soir, et dans un instant, une belle histoire, une jolie histoire au milieu de l'horreur au procès de l'attentat de Nice. À tout de suite.
Julien Cellier.
RTL Soir jusqu'à
19h15. RTL Soir.
Julien Cellier, Marion Calais.
18h10, la suite de votre journal dans RTL Soir avec comme une lumière dans les ténèbres au procès de l'attentat de Nice. Le récit aujourd'hui d'une rencontre et de deux vies désormais intimement liées.
Ce soir-là, Sébastien, alors quadragénaire, n'a pas quitté la jeune Emma, 12 ans, seule et blessée. Il a raconté tout à l'heure, Cindy Hubert, à la barre, cette soirée et leur relation désormais si particulière.
Oui, Emma vient de passer sous le camion, mais elle est vivante. Sébastien aperçoit tout de suite sa petite silhouette parmi les corps. La petite fille est grièvement brûlée, se souvient Sébastien, et le choc lui a fait perdre la vue.
Je me suis allongé comme elle, en fait, par terre, tout en lui tenant la main. Je la rassurais. tout en levant les yeux et en voyant ce qui se passait autour de moi. Je voyais toute l'horreur et ça m'imprégnait. À chaque fois, elle me demandait où était sa famille. Je ne pouvais pas laisser Emma parce que je comprenais que si jamais je la laissais, il y a de fortes chances pour qu'elle parte, en fait.
Sa grand-mère, son oncle et sa tante sont morts à ses côtés sur la prom. Mais Emma s'en sort complètement rétablie. Et aujourd'hui, Sébastien fait partie de la famille.
C'est ma fille, en fait. C'est une fille de cœur, en fait. Elle a passé son bac cette année. Elle aime la vie plus que tout. Et moi, quand j'ai des moments de doute, elle me donne cette force de rester debout et d'être fière de ce qu'on a vécu et de ce qu'on est, au final.
À ses côtés, restée silencieuse, Emma sourit avant d'enlacer celui qu'elle appelle désormais son deuxième papa.
Cette belle histoire racontée par Cindy Hubert devant la cour d'assises spéciale de Paris pour RTL.
À Marseille, au procès de la collision mortelle de Mias, débat suspendu jusqu'à lundi. La conductrice du bus dans lequel 6 enfants sont morts s'est effondrée au cours d'un nouvel interrogatoire et les pompiers l'ont prise en charge.
C'était sa 5e demande de remise en liberté, demande refusée pour Cédric Jubilard, mis en examen pour le meurtre de son épouse, Cédric Jubilard, qui doit être entendu demain par le juge d'instruction.
RTL Soir. Et ce bras de fer qui continue, TF1 toujours opposé à Canal+, qui a coupé depuis 3 semaines maintenant la diffusion des chaînes de la première chaîne.
À la clé des audiences à la peine pour TF1, notamment sur ses 20h, TF1 s'était tourné vers la justice, qui donne raison hein, pour l'instant, Laurent Marsic, à Canal.
Oui, en coupant le signal, Canal+ a aussi coupé le signal des abonnés TNT-SAT. Ce ne sont pas des abonnés Canal+, mais des téléspectateurs qui n'ont pas d'autres moyens que le satellite pour recevoir les chaînes de la TNT. Ce sont des téléspectateurs qui habitent en montagne, mais aussi dans l'est de la France, dans ce qu'on appelle les zones blanches. Ils sont à peu près 2 millions. TF1 demandait que Canal rebranche au moins ces gens-là. Ce service ne donnant lieu à aucune rémunération au bénéfice de TF1. Le tribunal de commerce ne l'a effectivement pas entendu de cette oreille-là. La première chaîne annonce ce soir qu'elle va désormais saisir la cour d'appel de Paris.
Explication signée Laurent Marsic pour RTL. Et puis ça, c'est un rendez-vous que l'on voudrait pouvoir suivre demain soir sur nos écrans, le dernier match de Roger Federer, qu'il jouera bien en plus, en double, avec Rafael Nadal, son meilleur adversaire tout au long de sa carrière, face à une paire américaine. Ils joueront dans le cadre de la Lever Cup à Londres.
On vous prépare un Kleenex, cher Marion.
Déjà rien que lire les nouvelles tout à l'heure, ça m'a donné envie de pleurer.
Merci Marion. Le temps pour demain. Claire, ça va ressembler à quoi, et ce ciel?
Il donnera aussi envie de pleurer. Nous allons débuter l'automne avec une dégradation pluie-orageuse, mais elle se fera quand même de manière lente et progressive. Donc nous allons avoir les premières pluies en matinée, donc de la Bretagne en remontant vers les Hauts-de-France. Elles seront dans un premier temps faibles et auront également tendance à faire du surplace toute la journée. Par contre, bien, le ciel il aura tendance à se voiler au fil des heures d'ouest en est, donc un voile qui deviendra de plus en plus épais pour gagner à la fin de la journée bien tout l'est du pays. Et nous aurons donc les premiers orages en début de soirée. Ça va débuter donc par le sud-ouest, donc des orages qui vont se montrer localement forts, qui vont progressivement gagner donc dans le courant de la nuit prochaine, eh bien l'Occitanie, mais ensuite la région PACA, et nous aurons, c'est pareil, toute la journée, eh bien des entrées maritimes qui auront là aussi tendance à faire du surplace au niveau du golfe du Lion. Donc les températures, eh bien encore fraîches en matinée, 4 à 15 degrés de l'intérieur vers les côtes, et donc dans l'après-midi, nous aurons, eh bien 21 degrés à Orléans, 20 degrés à Rennes, 24 degrés à Grenoble, 25 degrés à Agen, 24 degrés également à Montpellier.
Merci Claire.
La brigade RTL Soir.
Et la brigade RTL ce soir, elle s'inquiète pour nos bleus. France-Autriche ce soir à Saint-Denis, à vivre sur RTL, prise d'antenne 20h40. Blessure, affaire, on a connu plus serein comme rassemblement. On va poser 3 questions à notre spécialiste, notre Philippe Sansfourche national. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Alors ce n'est que la Ligue des Nations, mais défaite très fortement déconseillée, c'est ça?
Très clairement, hein. Défaite ce soir égale relégation mathématique en Ligue B de la prochaine Ligue des Nations. Ça veut dire tout simplement des matchs à venir moins prestigieux. Ça veut dire aussi un tirage au sort beaucoup plus difficile pour les qualifications de l'Euro 2024. Et puis, dernier écueil, pas des moindres, le leadership de Didier Deschamps, le moral des troupes globalement à moins de 2 mois du début du Mondial.
Qui pour sauver la Maison Bleue? Est-ce qu'il reste des tauliers? Parce qu'on sait que 50% des titulaires sont blessés en ce moment.
On va dire sur les doigts d'une petite main. Ouais. Raphaël Varane, capitaine, patron de la défense. Il est un peu mieux cette saison avec son club de Manchester United. Antoine Griezmann, l'éternel boussole des des Bleus. Mbappé, évidemment, c'est lui qui avait arraché, on s'en souvient, le match nul à Vienne en juin dernier. Et puis forcément, Julien, il y a le retour de la revanche du Phénix survivant, épisode 23, 24, 25. Olivier Giroud, 36 ans dans 8 jours.
C'est vrai que c'est le joueur qu'on va scruter ce soir, Giroud.
Alors, souvenez-vous, ces deux derniers matchs, il avait marqué en équipe de France. Pas suffisant, pour autant, pour convaincre Didier Deschamps de le convoquer quand Karim Benzema n'est pas là. Ça veut donc dire qu'il est tout à fait probable qu'on le voit pour la dernière fois ce soir au Stade de France, si les choses en restent là. Olivier Giroud, on le rappelle, qui n'est qu'à 3 petites longueurs du record de Thierry Henry. 51 buts, lui est à 48.
Bon, quadruplé ce soir et c'est réglé. Pourquoi
c'est,
pas.
C'est le sens de l'histoire, il a toujours répondu ça, ouais. Comme ça.
France-Autriche, c'est à vivre sur RTL et sur M6 ce soir. Avec vous, Philippe, et avec toute l'équipe des sports, merci. RTL Soir revient dans quelques secondes. Décollage avec un invité exceptionnel, le patron de la NASA, Bill Nelson. Lune, Mars, il va vous faire rêver la conquête de l'espace. C'est juste après ça.
Jusqu'à 19h15,
RTL Soir avec Julien Cellier.
Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
Bonne fin de journée, vous écoutez toujours RTL Soir et un invité exceptionnel maintenant. C'est le patron de la NASA, son administrateur. Bonsoir Bill Nelson.
Good evening Julien.
Alors vous dirigez la puissante agence spatiale américaine et le monde entier suit votre actualité depuis quelques semaines parce qu'on rêve tous, 50 ans après, de voir des Américains remarcher sur la Lune. La première étape, c'est la mission Artemis, mission test sans équipage pour vérifier que l'on peut transporter à terme des astronautes sur la Lune. Le décollage a été reporté deux fois déjà. Pour quelle raison et surtout, est-ce que ça vous inquiète ?
Comme vous le soulignez, c'est une mission test, mais il faut tout tester avant de mettre des astronautes à bord du lanceur. Et comme il y avait un problème de fuite de carburant, d'hydrogène, et comme vous le savez, l'hydrogène est une matière, une substance très difficile à maîtriser, on ne peut pas se permettre de lancer la fusée. Mais on a découvert l'origine de la fuite, et si les essais sont concluants, eh bien nous pourrons procéder au lancement le 27 septembre à 11h37 du matin, heure des États-Unis.
Donc rendez-vous est pris pour le 27 septembre. Et ensuite, dites-nous quel est le calendrier. Quand reverra-t-on un astronaute marcher sur la Lune ?
Ce sera à la fin de l'année 2025, en principe. Ce sera notre seconde mission vers la Lune, après donc cette mission test, donc dans 2 ans.
La Lune, Bill Nelson, c'est une étape, non ? L'idée, c'est de s'y installer pour tester des technologies avant d'aller sur Mars, c'est l'objectif final ?
Tout à fait, l'objectif final c'est Mars. Et vous avez raison de souligner que la raison pour laquelle nous allons sur la Lune, ça n'est pas pour la Lune en soi, parce que nous y sommes déjà allés, comme vous l'avez dit, il y a 50 ans. Non, si nous y retournons cette fois-ci, c'est pour y apprendre à y vivre, à y travailler, à explorer le sol, à inventer de nouvelles technologies, à développer de nouveaux habitats. Tout cela, effectivement, pour préparer notre mission vers Mars.
Mais alors, pourquoi vouloir aller sur Mars? Parce que c'est évidemment fascinant, ça fait rêver tous les enfants de la planète et même les adultes. Mais en quoi ce sera utile pour nous les terriens?
Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que chacun d'entre nous est un explorateur en air. Nous voulons découvrir l'espace, découvrir l'inconnu. Par exemple, le télescope Webb, James Webb, nous avons pu faire de nouvelles découvertes spatiales. Chacune des photos que nous ramène le télescope, qui nous ramène à plus de 13 milliards d'années en arrière. Et on a ces images qui nous viennent de la préhistoire d'il y a 13 milliards d'années. Ce sont des images complètement inédites et nous explorons ainsi l'univers. Nous y allons aussi avec des êtres humains, avec des astronautes. Et ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première raison, la découverte de l'espace. Mais dans la découverte, les nouvelles technologies que nous avons élaborées, développées, eh bien, nous pourrons les appliquer à nos vies ici sur Terre, justement. À propos, presque tout le monde sur Terre, aujourd'hui, dispose d'un téléphone portable. Et grâce à ces téléphones, chacun est capable de prendre des photos un peu partout, comme je l'ai fait moi-même à l'instant, devant les magnifiques monuments de la ville de Paris, où je me promenais hier soir. Eh bien, cette caméra qui est dans l'appareil, dans le téléphone, il est sur une toute petite puce qui a été développée par la NASA. Et donc tout cela, vous voyez les retombées de ces technologies spatiales qui ont été élaborées à l'époque et qui se retrouvent dans notre quotidien ici sur Terre.
Bill Nelson, vous êtes donc en France en ce moment pour assister au Congrès international d'astronautique. La Lune, Mars, est-ce que pour atteindre ces objectifs, vous les Américains, vous avez besoin de nous, les Européens, de nos compétences, c'est indispensable ?
Eh bien, il y a 50 ans, nous sommes allés sur la Lune en tant qu'États-Unis d'Amérique. Maintenant, nous y allons dans le cadre d'une mission internationale. Il faut bien savoir que l'Agence spatiale européenne a produit le module de service pour le vaisseau Orion, et ce module est une partie indispensable de cette mission Artemis.
Ça veut dire que des astronautes européens aussi vont marcher sur la Lune.
Tôt ou tard, il y aura des équipages internationaux, des astronautes qui nous accompagneront, qui nous rejoindront sur la Lune. Le premier alunissage de deux astronautes sur un équipage de quatre est prévu pour 2025. J'ajouterai que ce sera la première femme sur la surface lunaire.
Alors vous savez qu'ici en France, on a un astronaute qui fait acte de candidature. C'est Thomas Pesquet, c'est le chouchou des Français.
Oh, he's a sweetheart. Ah,
et c'est également le chouchou des Américains, je peux vous le dire. Tout le monde adore Thomas. C'est un ami à moi que j'aime beaucoup. Il a un avenir brillant devant lui.
Juste un mot sur cette conquête de l'espace. Est-ce qu'elle est aussi politique ? Est-ce qu'il y a aussi une course contre la montre pour réussir à aller sur la Lune, sur Mars, avant la Chine?
Bah oui, il y a une course vers l'espace et malheureusement, la Chine ne s'est pas montrée transparente. Même dans le lancement de ses modules pour sa propre station spatiale, elle ne conserve pas suffisamment de carburant pour assurer le retour maîtrisé de son lanceur. Et donc du coup, le lanceur atterrit de manière incontrôlée sur Terre, sans qu'on sache où le lanceur atterrira. Et dans la mesure où cette chute n'est pas maîtrisée, il y a un réel danger. Alors heureusement, dans les deux cas où il y a eu cette chute, elle s'est terminée dans l'océan, sans faire de dégâts. Mais la Chine ne s'est pas montrée disposée à lever le secret. Or, toutes les nations doivent partager ouvertement, en toute transparence, ces programmes pour que chacun puisse travailler en coopération pour éventuellement venir au secours d'une mission d'un autre pays. C'est essentiel dans l'exploration du cosmos.
Pour terminer, Bill Nelson, vous qui dirigez la NASA, quel est votre regard sur la conquête de l'espace de manière générale? Parce que c'est vrai qu'on assiste à la naissance du tourisme spatial, à des projets qui nous semblent fous, portés par des milliardaires. Elon Musk veut réaliser un Paris-New York en une demi-heure d'ici 5 ans avec une fusée qui redescendrait ensuite très rapidement sur Terre. Quel est votre regard sur ce bouillonnement d'idées? Est-ce que c'est stimulant? Ou est-ce qu'au contraire, il faut peut-être davantage de régulation?
Je répondrai oui à toutes ces questions parce que nous développons de nouvelles technologies, de nouvelles techniques qui sont passionnantes. C'est vrai qu'on pourra faire Paris-New York en une demi-heure. C'est très sympathique. En même temps, lorsque l'on fait ce genre d'exploit, ça risque de poser des problèmes, créer des conflits avec justement la réglementation existante. Et donc, il faut se réunir autour d'une table pour régler ces problèmes, pour gérer la façon dont nous mettons en place ces nouvelles technologies. En soi, je trouve ça génial de pouvoir inventer de telles choses, d'avoir effectivement des milliardaires qui soient disposés à dépenser et consacrer leur fortune à l'élaboration de nouvelles technologies, de nouvelles techniques. Donc cette période est extrêmement stimulante, comme vous le dites, parce que nous créons un bouillonnement de nouvelles idées très prometteuses et de nouveaux moyens d'explorer l'espace.
Merci Bill Nelson, vous le patron, l'administrateur de la NASA, de nous avoir fait rêver ce soir et d'avoir été l'invité exceptionnel de RTL Soir. Merci beaucoup.
Thank you.
Merci à vous.
Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.
Et dans quelques secondes à peine, on continue de vous surprendre et de vous informer dans RTL Soir avec vos dessous de l'actu. Tiens, les dessous des postes vacants dans les collèges, dans les lycées, c'est peut-être le cas de vos enfants. Il manque toujours des profs, vous allez l'entendre 3 semaines après la rentrée. Et puis, laissez-vous tenter dernière avec Stéphane Boutsock qui a regardé pour nous aujourd'hui, rendez-vous compte, 250 bandes annonces des films à venir lors des prochains mois. Tout de suite sur RTL.
Julien Cellier.
RTL Soir jusqu'à 19h15.
RTL, s'informer ensemble.
18h30, passé de 1 minute, vous écoutez RTL Soir.
RTL Soir.
Julien Cellier, Marion Calais.
Et toujours à votre service pour vous informer, Marion Calais vous rappelle les 3 grands titres à retenir dans l'actualité de la journée.
Et à la tribune de l'ONU ce soir, le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov a dénoncé l'impunité de Kiev. Il rejette les accusations de crimes de guerre. En Iran, au moins 31 morts dans les manifestations qui ont suivi la mort de Mahsa Amini, cette jeune femme de 22 ans décédée après avoir été arrêtée par la police des mœurs à Téhéran. Et puis à 2 mois de leur premier match dans le mondial, les Bleus sur le terrain ce soir, France-Autriche en Ligue des Nations, coup d'envoi 20h45 à suivre en direct sur RTL.
Merci Marion, le temps demain Claire.
Un temps qui se gâte progressivement d'ouest en est avec les premiers orages attendus donc dans la soirée, des orages qui vont progresser dans le courant de la nuit vers l'Occitanie, la région PACA, le tout avec des températures allant jusqu'à 24 degrés pour la moitié nord et jusqu'à 27 degrés dans le sud pour l'après-midi.
Merci Claire.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et les dessous ce soir de la pénurie de profs. 3 semaines après la rentrée, eh bien il manque encore des enseignants dans certains collèges et certains lycées. D'ailleurs, un collectif de parents tape très fort du poing sur la table. 127 requêtes envoyées aujourd'hui au ministère pour réclamer 188 000 euros d'indemnisation et tenter de faire bouger les lignes. Un exemple concret ce soir. Bonsoir Zoé Pallier.
Bonsoir.
Alors vous êtes devant un collège du 18e arrondissement de Paris pour RTL où depuis la rentrée on cherche désespérément 2 profs, c'est ça ?
Oui, la direction ici se démène pour trouver un prof d'SVT et un prof d'art plastique. Alors ça, ce sont pour les postes non pourvus depuis la rentrée, mais il y a aussi des absences temporaires non remplacées. Résultat, à 15h, j'étais là, la sonnerie a retenti et un groupe d'élèves de 4e est sorti 1 heure plus tôt que ce qui est marqué sur leur emploi du temps.
Normalement, aujourd'hui, on finit à 16h30, mais aujourd'hui, on finit à 15h30 parce que le prof de musique, il n'est pas là. Et on l'avait l'année dernière et il n'était pas là non plus souvent. Je pense qu'il y a les 3/4 des cours de l'année où il n'était pas là.
Et donc, qu'est-ce qui se passe quand un prof n'est pas là et il n'est pas remplacé ?
Non, jamais. On n'a jamais eu un remplaçant, sauf quand c'était sur une durée de plus de 2 mois.
Et est-ce qu'ils sont inquiets, ces ados ?
En tout cas, ils se plaignent de leurs emplois du temps à trous, des allers-retours entre la maison et le collège. Et les 3e, surtout, eh bien, ils ont peur de ne pas finir le programme.
Comme c'est le brevet à la fin de l'année, si on tombe sur SVT, on est KO.
Surtout pour ceux qui veulent faire plus d'SVT plus tard. Du coup, bah, c'est compliqué. Ça va être compliqué pour suivre après. Le lycée, c'est rapide. On n'aura pas le temps de revoir à chaque fois.
Alors les parents aussi sont inquiets. Gaëlle a fait le calcul à la fin de l'année dernière.
Le bilan était sans appel. On en a constaté plus de 120 heures perdues d'enseignement dans la classe de Jeanne. Donc c'est à peu près 4 semaines de cours manquantes. Donc on a sollicité le rectorat et on a plutôt constaté son impuissance. C'est un constat, ils n'avaient pas de profs pour remplacer les profs absents.
Alors à Paris, il manque surtout des candidats pour enseigner les langues, notamment l'anglais. Mais en fait, il y a des problèmes de recrutement dans toutes les académies. Pour les syndicats, c'est une question de budget. Il faut l'augmenter, faire de l'éducation nationale une priorité pour rendre le métier plus attractif.
Les dessous des postes vacants, de la crise de vocation dans l'éducation nationale, c'était très concret ce soir dans un collège parisien. Merci Zoé.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
À 18h34.
Laissez-vous tenter dernière.
Et on vous emmène à Deauville maintenant dans Laissez-vous tenter dernière pour vous en mettre, mais alors plein la vue. On va retrouver Stéphane Boutsock. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Julien, bonsoir Marion.
Alors,
bonsoir
Stéphane. C'est en ce moment le congrès de la Fédé nationale du ciné français. C'était surtout aujourd'hui la journée des éditeurs. 250 bandes annonces projetées en quelques heures. C'est quoi l'idée Stéphane ? Vous donner un aperçu de tous les films qui vont la sortir pendant l'année ?
En fait, cette journée, si on réunit dans la salle du CID à Deauville, qui est une des plus grandes salles de ciné en France, je crois qu'il y a plus de 2000 places, en fait, ceux qui fabriquent le cinéma et ceux qui le projettent, donc les studios et les patrons de cinéma. Il y a les Américains, les Français sont là, et en effet, on montre les bandes-annonces de tous ces films qui vont faire l'événement dans les 10-12 mois qui viennent.
Bon, vous nous l'avez dit, Stéphane, hein, c'est l'un de vos moments préférés de l'année, oui. Regardez ces bandes-annonces, en l'occurrence 250.
Alors, vous savez quoi, j'avais été petit bras, parce que j'ai eu le chiffre ce matin quand on a commencé. Ce soir, à 21h, quand ça va s'arrêter, nous aurons vu 345 bandes-annonces, extraits ou images de films. Ça fait 9 heures de cinéma.
Mais ça va les yeux quand même ce soir ?
Ça va très très bien. Moi, ça pourrait durer jusqu'à demain soir.
Vous nous aviez promis un top 10 avant-hier à l'antenne. Qu'est-ce qui vous a marqué alors dans ces bandes-annonces ?
Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le retour vraiment sur nos écrans de ce qu'on appelle les franchises, c'est-à-dire les marques fortes. Mission Impossible 7, on a vu les premières images du film avec Tom Cruise. Transformers revient, Hunger Games revient. On a vu les images d'Avatar 2 qu'on avait déjà vu la semaine dernière. Et puis Stallone et les papis musclés sont le retour. Expendables 4 sera de retour sur nos écrans. La tendance, je peux vous dire, c'est aussi du grand spectacle. Les premières images de Couleur de l'incendie de Clovis Cornillac, vous savez que c'est la deuxième adaptation des romans de Pierre Lemaitre, après Au revoir là-haut. Tout à l'heure, Pathé arrive avec un programme alléchant. On va voir les images des Trois Mousquetaires, d'Astérix de Guillaume Canet, mais aussi du prochain film de Danny Boone, Ses retrouvailles avec Canmerade. Il y a évidemment des comédies. Figurez-vous que pour la première fois à l'écran l'année prochaine, on pourra voir Christian Clavier et Didier Bourdon dans le même film, ça s'appelle Cocorico. Là aussi, on a vu les premières images. Il y a des icônes qui vont débarquer sur nos écrans aussi. L'abbé Pierre, Simone Veil, Whitney Houston avec un biopic. Et puis, moi, c'est ce que j'aime ici. Il y a des choses assez surprenantes. Si je vous avais dit qu'un jour on réunirait dans un film Isabelle Huppert, Régis Laspalès et Danny Boone, vous m'auriez dit quoi ? Eh bien, ça sera le cas dans le prochain film de François Ozon qui s'appelle Mon crime. Et puis, dernière chose, on a vu les premières images du film Bernadette. Sur Bernadette Chirac avec Catherine Deneuve dans le rôle, et ça aussi ça va être assez bluffant.
Ça promet, quelle année arrive.
Ça donne envie, hein.
Ça donne envie, effectivement. Profitez, Stéphane, pour nous. Merci de nous avoir raconté en tout cas ces petits bouts de bande-annonce pour l'instant. C'est Hunger Games qu'attend avec impatience Marion, j'ai l'impression.
J'avoue. Et Expendables, pas mal aussi.
Merci d'avoir été nos yeux dans Laissez-vous tenter dernière ce soir. La suite de RTL Soir, c'est dans quelques secondes à peine. On va défaire le monde, les 20 minutes d'info autrement avec Cyprien Sini, Isabelle Choc. Ok, Laurent Tessier, nos Expendables à nous. Bonsoir les amis.
Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi j'ai plus hâte de voir Laspalès avec Isabelle Huppert quand même. Vous, comme vous voulez. Mais.
Alors dans deux mois, coup d'envoi du mondial au Qatar. Droits de l'homme, écologie, bon les polémiques se succèdent. Mais au fait, qui a décidé au départ, quand et pourquoi d'organiser cette compétition au beau milieu du désert ? On va remonter le temps juste après ça, tout de suite.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.